Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et voici les enjeux internationaux. L'Assemblée nationale populaire est réunie cette semaine à Pékin pour son grand rendez-vous politique annuel, et ce, jusqu'à lundi. C'est un peu la grande messe du Parti communiste chinois. On en attend certaines annonces, peut-être quelques nominations politiques, mais surtout les grandes orientations économiques de la Chine pour l'année à venir. Les yeux des observateurs internationaux sont en effet braqués sur ces dernières annonces. Au vu du ralentissement de la croissance, de la hausse du chômage, que retenir des grandes annonces de ces jours-ci? Bonjour Marie-Françoise Renard.
Bonjour.
Vous êtes économiste spécialiste de la Chine et professeur à l'université de Clermont-Auvergne. Il faut tout d'abord nous dire à quoi servent ces deux sessions qui se tiennent depuis lundi, en quoi elles consistent?
Alors ces sessions, elles consistent en une présentation des grandes lignes de la politique chinoise d'une façon générale et notamment de la politique économique. Elle reprend en fait des annonces qui ont été faites dans toute une série de réunions qui ont lieu depuis la fin de l'année dernière. Et en fait, elle va servir notamment l'Assemblée nationale populaire à approuver les budgets, à approuver éventuellement certains projets législatifs et, comme vous venez de le rappeler, à voter pour, entre guillemets, parce que tout le monde va voter pour, à voter pour pourvoir des postes vacants, par exemple le nouveau ministre des Affaires étrangères.
Donc c'est une réunion particulièrement importante. Quels sont les liens entre ces assemblées et le Parti communiste chinois? Parce qu'à chaque fois, c'est compliqué d'y voir clair.
Oui, alors effectivement, c'est compliqué, mais il y a une chose qui est assez simple, c'est que les décisions qui vont être annoncées, enfin qui sont annoncées depuis le début de la semaine, elles ont déjà été entérinées par le Parti communiste, en fait. C'est lui qui décide des grandes lignes de la politique, et donc elles seront présentées cette semaine. On les met sur le devant de la scène, mais tout a déjà été bouclé, et le Parti communiste a un rôle central dans ces décisions, c'est lui qui prend ses décisions. Alors peut-être qu'on verra, parfois on voit émerger certaines dissensions, par exemple on sait qu'il y en a dans l'armée, donc on a des hésitations sur certaines choses, mais en fait il y en a très peu et tout est déjà bouclé.
Contrairement à la tradition, le Premier ministre Li Qiang ne tiendra pas de conférence de presse à l'issue de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, il faut être pékinologue pour expliquer un peu ce que ça signifie.
Oui, alors le nouveau Premier ministre, c'est un proche et un fidèle de Xi Jinping, donc il ne risquait pas vraiment de lui faire de l'ombre. Il y a deux interprétations qui sont concomitantes. Il y a le fait que Xi Jinping veut rester tout seul sur le devant de la scène. Alors dans ces deux assemblées, on va pas l'écouter beaucoup, mais il garde la lumière sur lui tout seul. Et puis d'autre part, pourquoi risquer que ce nouveau Premier ministre, qui n'est pas très expérimenté en termes de Premier ministre, fasse une gaffe, dise une bêtise? Finalement, il vaut mieux qu'il ne s'exprime pas. En revanche, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, un certain nombre d'autorités qui sont à la tête, par exemple, d'organismes de régulation boursière ou de différents organismes sur la réforme, etc., eux ont donné une très longue conférence de presse mardi, presque 3 heures, pour donner un certain nombre d'informations sur la politique économique dans leur domaine, pour des mesures qui seront prises dans leur domaine.
Qu'est-ce que ça dit de ces liens entre ce Premier ministre, qui n'est pas très connu quand même, Li Qiang, et Xi Jinping? Est-ce que c'est un Premier ministre fantoche? Est-ce qu'il a un rôle? Et si oui, lequel? Parce que là aussi, c'est très compliqué de comprendre comment fonctionne le pouvoir de Xi Jinping, Marie-Françoise Renard.
Alors aujourd'hui, son rôle, c'est de transmettre la pensée de Xi Jinping et les décisions de Xi Jinping. C'est un rouage. Il n'a pas certainement pas, pour l'instant, il n'a pas fait montre d'opinion personnelle, et tout le monde s'accorde à penser que Xi Jinping l'a choisi parce que c'est un compagnon de très longue date et un compagnon fidèle. Les commentaires qui ont été faits dans la presse asiatique, notamment, et notamment de Hong Kong, c'est qu'il y a une très forte connivence entre les deux. On a vu circuler des photos où pendant ces réunions de cette semaine, Xi Jinping et son premier ministre font des sourires, et donc il est là pour servir d'intermédiaire entre Xi Jinping et les gens qui assistent à cette Assemblée nationale populaire. Alors pas à la presse, comme vous l'avez rappelé, mais il va exactement transmettre ce que Xi Jinping veut qu'il transmette.
Être dans l'entourage de Xi Jinping n'est pas quelque chose dénué de danger, puisque au cours de l'an passé, plusieurs personnalités proches de Xi ont disparu de la scène politique. Alors ça a été le cas du ministre de la Défense, du ministre des Affaires étrangères. En fait, on a compté 11 membres du comité permanent de l'Assemblée nationale qui ont été démis de leurs fonctions. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être ainsi évincés?
Alors, il y a deux raisons principales. Le manque de confiance que peut avoir Xi Jinping dans leur capacité justement à suivre ce qu'il veut dire et faire. Et d'autre part, le fait qu'il y a des dissensions au sein des ministères, au sein de l'armée, et que cela entraîne des conflits internes. Il y en a beaucoup en ce moment, et du coup, on a des hésitations d'ailleurs pour savoir qui sera ministre. C'est pas absolument sûr, parce qu'il y a des divergences, il y a des conflits de pouvoir, et les ministres, ils n'ont pas totalement disparu. En général, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, mais ils sont absolument écartés du pouvoir.
Écartés du pouvoir, donc on voit effectivement à quel point la machine est une machine sans pitié, d'autant que la Chine fait quand même aujourd'hui face à une situation assez complexe. Ça a fait la une des journaux. La croissance ne revient pas. La Chine peine à se remettre du Covid.
Oui, la Chine a eu deux éléments très difficiles pour son économie. C'est la politique zéro Covid, qui a eu un certain nombre d'avantages au départ, mais qui a coûté très cher en termes économiques. Et puis le contexte mondial, qui n'est pas non plus très favorable, qui est assez tendu, comme on le sait. Et dans une situation où la Chine aurait besoin de réformes structurelles depuis pas mal de temps. Le gouvernement, comme on le sait aussi, a pris des mesures pour désendetter le secteur immobilier au début des années 2020, pardon. Et cela a été le moment du déclenchement de la crise du Covid. Donc il y a eu des événements qui se sont réalisés en même temps, qui étaient des éléments très négatifs pour l'économie chinoise. Et donc elle est effectivement en difficulté aujourd'hui.
D'ailleurs, il faut rappeler à quel point le secteur de l'immobilier pèse. Je crois que c'est 20 ou 25% du produit intérieur brut chinois.
Oui, c'est 25% et même on peut aller jusqu'à 30% si on compte les secteurs qui sont très dépendants, la décoration d'intérieur par exemple, la fourniture de meubles, etc., très dépendante de secteurs. Donc c'est un poids qui est très lourd dans l'activité économique chinoise.
Ah oui, donc on voit effectivement à quel point cela pèse. Bon, le fait que la Chine soit aujourd'hui dans des situations économiques complexes, est-ce qu'il va y avoir un changement de la politique économique? Qu'est-ce que ça peut provoquer là aussi comme réorientation?
Alors non, on observe qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de plan de stimulation de grande ampleur, ça on le savait parce que le Premier ministre l'avait annoncé à Davos, et il y a une poursuite des mesures. Cela a été dit très clairement, on approfondit les mesures de stabilisation qui ont été prises ces derniers mois. Et donc on voit bien que dans les domaines cruciaux comme l'immobilier, le chômage des jeunes, la consommation, le gouvernement poursuit sa politique. L'idée, c'est d'améliorer la montée en gamme de l'économie chinoise. À court terme, il y a un ajustement qui coûte cher, mais c'est l'objectif de long terme. Et la position de Xi Jinping a été très claire là-dessus. Il faut à la fois avoir surmonté la crise économique et soutenir la sécurité nationale. Eh oui. C'est probablement la sécurité qui passera en premier. Mais néanmoins, et les ministres qui ont donné la conférence de presse ont annoncé un certain nombre de mesures. Et par exemple, sur la relance de la consommation, qui est un point important, il n'y aura pas un plan de relance direct à la consommation, Xi Jinping y est opposé, mais il y aura des mesures indirectes. Par exemple, pour inciter les consommateurs à renouveler tout l'électroménager en achetant des produits plus haut de gamme que fabrique maintenant assez largement la Chine. Donc ça permettrait d'une part de relancer la consommation, d'autre part d'écouler des produits chinois et de soutenir l'innovation et la montée en gamme de la Chine avec une politique industrielle, bien sûr, dirigée par le gouvernement.
Oui, parce que cette montée en gamme, elle est essentielle puisque l'idée, c'était de moins miser sur les exportations, de miser sur le marché intérieur. Mais enfin, si la croissance est en berne, ça ne va pas être simple.
Exactement, c'est la difficulté, c'est pour ça qu'il y a de la déflation, qu'il y a des stocks et de la surproduction. Et la montée en gamme, c'est effectivement pour que le marché intérieur puisse être satisfait par la production intérieure. Bon, c'est aussi pour les exportations, parce qu'on voit bien dans certains secteurs, notamment l'industrie verte, les véhicules électriques, etc., que la Chine a un certain nombre de secteurs dans lesquels elle a une avance mondiale et elle compte bien sur ces secteurs pour dynamiser ses exportations.
Il y a effectivement de nombreuses réorientations qui devraient être prises, mais comme vous le dites, s'il y a une volonté de ne rien changer, va quand même y avoir des annonces diplomatiques de la part du ministre des Affaires étrangères.
Oui, alors il y en a eu cette nuit, mais pareil, ce ne sont pas des annonces qui ont un poids très important. Il n'y a pas de changement. Il rappelle que la Chine est défavorable à l'indépendance de Taïwan. Ça, c'est toujours
oui,
la
ça,
même
ça,
discours.
Ce n'est pas.
Voilà.
Une
et il reproche aux États-Unis de trop soutenir Taïwan. Il indique que si on joue avec le feu, on risque de se brûler. Donc voilà, ce sont des annonces diplomatiques qui rappellent les points de la politique étrangère chinoise.
Bon, donc pas de grand bouleversement malgré tout à attendre.
Non, il y a aussi une annonce sur les crises dans la zone asiatique, dans la mer du Sud, etc., en disant il faut le régler diplomatiquement. Voilà. Et le ministre des Affaires étrangères, enfin de remplacement, a rappelé que la Chine était faiseuse de paix. Notamment
voilà, c'est toujours bon de le rappeler tant qu'on parle de diplomatie. Et le pire n'est pas certain. Marie-Françoise Renard, merci. On vous doit notamment la Chine dans l'économie mondiale aux presses universitaires Blaise Pascal. Dans quelques secondes, qui vient? Eh bien, Alexandra Delbo, elle va nous parler de météorites.